marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
La marche de l'histoire contribue au grand débat en nous parlant de démocratie communale.
Oui, il y a une proposition de Radio France d'ailleurs qui est faite ce 6 février à 19h. Au studio 104 à la maison de Radio France, un premier essai de restitution ou de synthèse des débats. Et nous, vous l'avez dit, on va aller à la base avant la synthèse au niveau des communes.
Je veux voir tout de suite, monsieur le maire.
Il n'y a personne ici. Revenez demain.
La démocratie communale.
On a aujourd'hui cette nouveauté du grand débat qui semble assez compliquée à organiser. Je voudrais communiquer une information qui apparemment n'est pas passée, et ça me surprend beaucoup. Ça fait plusieurs mois que la communauté de communes de Bléré-Val-de-Cher organise un club climat auquel participe beaucoup moins de monde que les gens présents ce soir. Et pourtant, ça fonctionne très très bien. Il y a un excellent modérateur. Les idées fusent de tous les côtés, et ces idées sont collectées. Et donc, cette nouveauté du grand débat d'aujourd'hui, elle existe déjà.
Le maire, modérateur, nous sommes en Indre-et-Loire. C'est pour ça peut-être qu'il n'est pas constamment dans sa mairie. 3400 débats répertoriés à travers le pays. Et 60% d'entre eux à l'initiative des maires et des élus locaux. Certains d'entre eux, infatigables, en organisent même plusieurs. Le maire, tel que le voit traditionnellement l'État, c'est l'ultime représentant de l'autorité centrale, celui qui est au dernier échelon du pays, par exemple la autorité de police. L'État, en revanche, est souvent plus réservé quant au rôle d'organisateur de la vie démocratique que doit tenir aussi le maire dans la commune. La commune, école de la liberté, la commune par laquelle s'instille la République. La loi de 1884, qui renonce enfin à la nomination du maire par l'exécutif, interdit pourtant toujours à celui-ci de faire voter par son conseil des adresses au gouvernement ou des proclamations politiques. Même le choix des noms de rue devait être visé, selon la loi de 84, par le préfet. Et aujourd'hui, quand le pays commence à ressembler à une cocotte minute, c'est au maire que le pouvoir central demande pourtant d'ouvrir les soupapes. Le discours gestionnaire qui dominait jusque-là semble soudain inopérant. En 2015, la loi, dite joliment « nôtre », avait marqué le point d'orgue d'une vision technocratique prenant tout à la fois la fusion des communes, leur regroupement en communautés de communes et d'un même mouvement, le redécoupage des régions. Les chiffres depuis parlent, la France ne compte plus que 35 000 communes et elle compte plus d'un millier de communautés de communes. Mais les habitants ont le sentiment que les élus sont devenus soudain plus lointains. Les inconvénients politiques de la rationalisation gestionnaire se font sentir. La France est une nation où on change de pays tous les 20 ou 30 kilomètres et les gouvernants se disent soudain qu'il faut remailler ce qu'ils détricotaient avec assurance.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Frédéric Lazorte, bonjour.
Bonjour.
Qu'on peut lire dans le point... .fr, aussi bien dans la revue Études. Alors je vous ai invité parce que vous êtes un politiste d'un genre un peu particulier. Vous avez connu tous les échelons, un cabinet de Premier ministre, non ?
Oui, exactement.
Un cabinet de ministre.
Oui.
Et alors maintenant, sans être élu, vous arpentez les routes vous habitez dans un pays qui s'appelle le Vimeux. Alors le Vimeux, alors quand j'ai prononcé ce nom au bureau, Frédéric Martin qui a préparé cette émission me dit le Vimeux, puis personne d'autre dans le bureau ne connaissait le Vimeux, et puis au bout d'une demi-journée, Frédéric Martin me dit mais il faudrait faire une émission entière sur le Vimeux.
Oui, le Vimeux c'est intéressant, enfin moi j'habite à la lisière du Vimeux un peu au-dessus, hein, près de la baie de Somme. Mais le Vimeux est intéressant parce que...
On est dans le département de la Somme.
Oui, absolument, c'est dans la Somme, hein, oui on l'a pas dit.
Et c'est un plateau.
C'est un plateau, c'est effectivement entre la partie maritime et la partie des terres, mais c'est pas encore dans la Haute-Somme, donc on n'a pas passé Amiens. On est pratiquement au-dessus donc de la Seine-Maritime.
Et on est autour de quelle ville ? Il y a des villes d'ailleurs dans
Bien
le
Vimeux ? Bien sûr, il y a plusieurs villes. L'une des plus importantes, c'est Fribourg-Escarbotin, qui d'ailleurs est à la tête de la com de com du Vimeux.
D'accord.
Comme du Vimeux qui, depuis peu, réunit le Vimeux traditionnel, on pourrait dire ombrier, et le Vimeux vert, qu'on appelle comme ça parce que c'était plutôt le Vimeux rural.
Mais je veux pas dire si le Vimeux est si peu connu, malgré ses qualités, c'est qu'il est peut-être un peu à l'écart de la marge de l'histoire.
Il l'est sans doute du point de vue, en tout cas, de nos représentations mentales d'aujourd'hui, même si, effectivement, on pourrait dire que de la Révolution française au XXe siècle, il a été au cœur des luttes. D'ailleurs, la Somme, à bien y regarder, est souvent un territoire intéressant du point de vue politique. Mais donc, il y avait le Vimeux vert, plus traditionnel, plus tourné vers des grandes familles, et le Vimeux rouge, ouvrier, où il y avait une industrie, une industrialisation, et d'ailleurs... À la lumière, ou en tout cas au moment des occupations de ronds-points, on pouvait sentir des différences de sensibilité entre les ronds-points, plus dans la partie verte que dans la partie rouge.
Mais attendez, vous avez utilisé, Frédéric Lazorte, le mot « territoire ». Ça montre bien que vous êtes encore un politiste et que vous pourriez être un élu, parce que les habitants, normalement, spontanément, ils n'utilisent pas le mot « territoire ».
Non, le territoire... uniformisme, mais en même temps, vous savez quand même que ça fait depuis 1789 qu'on veut mettre un petit peu de rationalité dans le découpage de la France. Donc c'est déjà une question intéressante de constater qu'à travers la commune, justement, il y a à la fois la liberté, la construction de cette commune libre, et en même temps la volonté de rationaliser.
Alors 1789, à la fin de l'année, chaque commune étant formée par la réunion de citoyens qui ont à proximité les uns des autres leur habitations et donc des intérêts communs, et définit la commune. C'est Condorcet qui utilise les mots que je viens de prononcer, mais Condorcet, lui, il voudrait des communes d'au moins 4000 habitants, toujours la volonté de rationalisation. Simplement, oui. La Révolution, elle aboutit à 40 000 municipalités.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, sur les départements, comme vous savez, puisque les deux créations révolutionnaires sont le département et la commune, qui sont issus de l'abolition des privilèges des anciens territoires, en fait, des anciennes provinces, des paroisses et des villes à charte. Donc, pour la commune, on fait un petit quand même, on fait un petit compromis avec la réalité. On considère que c'est plus l'espace de vie qui compte, et donc effectivement, on va pas aller jusqu'à la volonté rationnelle de Condorcet. Mais malgré tout, l'État et les logiques de centralisation, même de rationalisation, ont continué jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les va-et-vient constants qu'il y a dans cette définition de l'espace local qui serait le plus approprié.
Va-et-vient, parce que pendant la Révolution, on élit les corps communaux. Pendant l'Empire, il n'en est pas vraiment question. Et puis, pendant la Restauration, on discute de la liberté, jusqu'à quel point faut-il la rendre à la commune. Ça, c'est un texte de Guizot. Guizot, jeune, avant qu'il ne devienne ministre, puis président du Conseil de la Monarchie constitutionnelle, quand il était plein d'ardeur.
On lui parle des magistrats, du maire, et il apprend avec étonnement qu'ils ne sont pas nommés par les bourgeois de la ville. Il apprend que les affaires de la commune ne se défendent pas dans la commune, qu'un fonctionnaire les administre de loin. On lui dit que les habitants n'ont pas le droit de s'assembler, de délibérer en commun sur tout ce qui les touche. Le bourgeois du XIIe siècle, habitué à toutes ces franchises, reste confondu. Mais la scène change. Un Français du XIXe siècle pénètre dans une ville du Moyen Âge. Il se trouve dans une espèce de place forte, défendue par les bourgeois armés. Ces bourgeois se taxent eux-mêmes, élisent leurs magistrats, jugent, punissent, s'assemblent pour délibérer sur leurs affaires. Tous viennent à ces assemblées. Ils font la guerre pour leur compte, contre leur seigneur. Ils ont une milice. En un mot, ils se gouvernent eux-mêmes. Ils sont souverains. Le Français du XIXe siècle n'en peut croire ses yeux.
La comparaison avec le Moyen-Âge n'est pas flatteuse. Pour le début du XIXe siècle, les libertés communales étaient plus grandes au XIIe ou au XIIIe. 1831, Guizot ne sera pas étranger à la construction d'une nouvelle loi sur les communes qui sera suivie d'un code des communes. Élection au suffrage élargi des conseillers municipaux, avec cependant toujours le recours à l'exécutif pour la nomination du maire.
Oui, alors ce qui est intéressant dans le texte de Guizot, c'est qu'effectivement Guizot, comme grand historien, comme on sait, a beaucoup insisté sur dans sa fresque sur l'évolution de la France et de la civilisation européenne, la construction de la liberté. Et on la situe dans la ville, la liberté. D'ailleurs, ça ramène à l'idée de cité ancienne, donc ça faisait la continuité. Et effectivement, les libertés communales sont un enjeu, en tout cas intellectuel, et de pensée commun à tous les penseurs libéraux. Dans la pratique, il en est un petit peu différent, il en va différemment, parce que Guizot était assez conservateur, assez prudent, et la loi de 1831 en reste au principe du suffrage censitaire, en reste à l'idée d'une surveillance quand même et d'une limitation des libertés communales, ce qui va faire débat sous la monarchie de Juillet jusqu'en 1848, bien évidemment.
Enfin, Guizot quand même veut implanter le maximum d'écoles dans les communes. Mais pour que les communes deviennent écoles de la liberté, faut-il encore qu'il y ait des écoles.
Je compte prendre immédiatement mes nouvelles fonctions et fixer la rentrée des classes dans peu de jours.
Le malheur, c'est qu'on envoie à l'instituteur, mais que nous n'avons pas d'école. Franchement, monsieur, je n'ai que faire de vous. Toutefois, je suis toujours respectueux de la loi. Et comme l'école est obligatoire, vous aurez une école, monsieur. Vous en aurez. Et tout de suite encore. Nous avons affecté une écurie à cet usage.
Une écurie?
La commune n'est pas riche. Et depuis des siècles, nous nous sommes bien passés d'école. Puisque paraît-il, il faut que tout le monde sache lire. Enfin, bien entendu, la rentrée sera annoncée par prier public.
Oui, j'ai dit le maximum d'écoles, ça ne veut pas dire une école partout. Et puis, qu'est-ce qu'on enseigne dans l'école? Quelqu'un qui s'est opposé à Guizot, le renvoyant aux convictions libérales qu'il avait eues au début et qu'il avait abandonné peu à peu au moment où il exerçait le pouvoir, c'est Tocqueville. Et c'est lui qui insiste sur la commune école de la liberté.
Oui, effectivement. Mais d'ailleurs, peut-être pratiquement dans un temps parallèle à celui de Guizot, enfin juste dans la suite, c'est-à-dire que quand Tocqueville écrit La démocratie en Amérique, il reprend ce thème de la commune. Il est très frappé de voir que la souveraineté du peuple, qui est, comme vous le savez, pour Tocqueville, le propre de la démocratie, eh bien, s'enracine dans la commune. Et à la différence de Guizot, peut-être, là où il met une inflexion, parce que Tocqueville était un peu ethnologue, il insiste beaucoup moins sur la liberté instituée des communes franchisées du XIIIe siècle, et il voit dans la liberté communale finalement quelque chose d'assez naturel à l'homme, dès qu'il s'assemble en collectivité. Donc il renvoie toujours à cette idée que finalement la liberté s'enracine dans la commune, et en ce sens elle est naturelle à la vie humaine en collectivité.
Et c'est par la sociabilité qu'on devient de plus en plus curieux des autres. On trouve un intérêt, d'ailleurs, personnel à la curiosité qu'on a vis-à-vis des autres. 1848, rappelons ces dates, hein, suffrage universel. Mais le maire continue, alors que le conseil municipal est élu au suffrage universel, à être nommé par Paris. Il faut attendre 1884 pour que le maire soit élu par le conseil municipal. On continue cependant, dans un certain nombre de mairies, à considérer le maire comme détenteur d'un pouvoir monarchique, qu'il soit élu ou non. Est-ce qu'on peut revenir au Vimeux un instant? Vous connaissez Lignières en Vimeux?
Oui, ça me dit quelque chose, mais c'est pas mon territoire de prédilection pour le moment, je dois avouer.
Car vous vous occupez de quoi finalement dans le Vimeux?
Je commercialise la fibre pour les habitants.
Et alors à Lignières en Vimeux?
Eh bien, ils n'ont pas encore. Ils n'ont pas encore la communauté de communes dont ils dépendent, dans le sud de la Somme, n'a pas encore. N'est pas encore ouverte à la fibre. Ils ne sont pas encore éligibles, comme on dit en termes techniques.
Mais il y a un château qui a été reconstruit après la guerre et où sont éligibles et élus régulièrement à la mairie les titulaires du dit château, la famille de Vazier. C'est un reportage de 1992 de France 3 Picardie.
Je suis dans ma 53e année de mandat et alors, chose plus surprenante, c'est que mon père a été élu maire de Lignières en 1892, c'est-à-dire que, à part un intermède de 5 ans, père et fils, nous aurions fait 100 ans cette année de mandat de maire à Lignières.
Vous êtes ici depuis 30 ans. Est-ce qu'il n'y a jamais eu quelqu'un pour se présenter contre monsieur le maire ?
La politique, elle ne nous intéresse pas. Alors, effectivement, je ne vois pas qu'il y aurait d'opposition. Hein.
Ben, ma foi, vous savez, la politique m'a jamais très tellement emballé. Au contraire, ce que j'aime dans notre commune, c'est que la politique est tout à fait en dehors des questions que nous traitons.
Et alors, si on regarde de près les choses aujourd'hui, en 2019, c'est toujours une dame de Vasier qui est maire de Lignières. Ça veut dire que le travail d'appropriation, c'est à la fois un travail d'appropriation démocratique, mais ça peut aussi être un travail d'appropriation, je ne veux pas désigner à la vindicte populaire la famille de Vasier, par des notables.
Cette difficulté ou cette ambiguïté, d'ailleurs, ça explique sans doute l'ambivalence des républicains du pouvoir central vis-à-vis des libertés communales. Elle existe depuis le point de départ. Tout à l'heure, on parlait de Tocqueville, on évoquait Tocqueville, on évoquait Guizot. Finalement, on pourrait évoquer la figure de Ferry et reparler de Ferry, puisque la loi de 1884, c'est l'autre grande loi de Ferry. Et l'idée de Ferry, c'était que finalement, il fallait quand même que la liberté municipale, communale naisse, même si c'était au profit de notables, dans un premier temps, parce que sinon, la République n'allait jamais s'installer au village. Alors là, on a un exemple, un cas typique, ce qu'on appelle le Vime Vert, où il y a des familles beaucoup plus installées, qui possèdent des terres, et donc il y a une autre culture que dans le Vime industriel. Et évidemment, mais cela dit, vous savez, si on regarde le XXe siècle, il y a quand même eu des maires qui ont, même dans des grandes villes, qui ont fait des mandats très longs. Donc peut-être que ça change petit à petit. Ça change d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est pas une sinécure d'être maire, mais même dans un village aussi différent.
Mais Madame de Vasier, elle joue un rôle important dans la communauté de communes de Lignières en Vimeux, qui est Somme Sud-Ouest.
Sud-Ouest, oui.
Ouais, c'est des drôles de noms, d'ailleurs, que souvent portent les communautés de communes. Enfin, là, on sait qu'on est dans la Somme.
Oui, on sait qu'on est dans la Somme. Il faut savoir, en plus, que ces communautés de communes ne cessent, on parlera peut-être un petit peu de se recomposer. Elles sont pas très stables. Il y en a 17 dans la Somme, plus Amiens Métropole, plus la communauté d'agglomération qui est celle d'Abbeville. D'ailleurs, communauté d'agglomération d'Abbeville qui a absorbé une communauté de communes et qui maintenant est la communauté d'agglomération de la baie de Somme.
Mais j'insiste sur la question des noms. Du côté d'Albert, c'est pas loin de chez vous, Albert.
Oui.
Comment s'appelle
Alors c'est la communauté de communes, enfin c'est pas loin de chez moi, c'est à 100 km, mais c'est mon territoire, on dira, parce que j'y vais de temps en temps. C'est la communauté de communes des Coquelicots. Ouais. Cela dit, le nom n'est pas si nouveau que ça. Hein.
Oui, et les Coquelicots, ça fait référence au rôle d'Albert dans la Première Guerre mondiale, ça fait une référence historique. Mais alors voyez, Longny-au-Perche, maintenant dans la communauté de communes, se retrouve Longny-au-Village. Alors ça veut dire qu'il y a plusieurs villages, mais on sait plus qu'on est dans le Perche. Condé-sur-Huisne devient Sablon-sur-Huisne. Alors, on sait qu'on est sur l'Huisne, mais Sablon n'est pas sur l'Huisne. Puis alors, tant les Vosges devient Cap-Avenir-Vosges. On sait qu'on est dans les Vosges, mais enfin, Cap-Avenir, c'est moins poétique qu'au Coquelicot. Ça ne provoque pas un effet de déterritorialisation, ces changements et de périmètre et de nom.
Je pense que oui, mais c'est-à-dire que c'est compliqué parce que je suis pas toujours sûr que les habitants aient conscience de la communauté de communes à laquelle ils appartiennent.
Bah oui, justement.
D'une part, et d'ailleurs, en fait, ce qui est assez étonnant dans cette édification des communautés de communes, c'est qu'on semble revenir un petit peu en arrière sur le principe de l'élection au suffrage direct, puisqu'on a un suffrage à deux niveaux.
Le conseiller communautaire.
Le conseiller communautaire.
Qui est bien au-dessus du simple conseiller municipal des communes déléguées ou des communes agglomérées.
Absolument. Et qui plus est, avec des présidences de communautés de communes qui, quelquefois, réinstaurent une forme d'autorité qui est au-dessus des autres maires et qui crée des tensions, notamment, c'est le cas dans la communauté de communes des Coquelicots, à ce que m'a évoqué une maire. Une petite maire du coin en me disant il a beau être à la tête d'une petite commune, on dirait qu'il est à la tête d'une grande ville.
Oui, et c'est celui qui était devenu
président de la communauté de communes.
D'où peut-être un regret de la part des électeurs qui voient s'éloigner les lieux où ils pouvaient toucher, engueuler, approcher les élus. Témoigne cette nostalgie C'est un énorme succès sur le net, 77 millions de vues. Ce succès a commencé l'été dernier, bien avant le mouvement social que nous connaissons dans le pays. C'est une chanson qui fait un peu écho, beaucoup d'années après, de manière moins poétique et moins politique peut-être, à la montagne de Jean Ferrat. Nous sommes en Corrèze et les membres du trio Trois Cafés Gourmands, jusqu'à ces dernières semaines, travaillaient à Arlac-Pompadour, Brive-la-Gaillarde, ils vivaient en Corrèze.
Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle, oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle?
Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler.
Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson, vous me croyez bizarre,
un peu patriotard.
Le fruit de ma réflexion ne touchera personne, si vos pas ne résonnent jamais dans ma région.
C'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession.
Je l'aime à en mourir, pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry.
Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête.
On veut un vernis Chabrol,
un petit goût de gnoll,
les yeux de nos grands-mères,
la voix de nos grands-pères,
l'odeur de cette terre,
vue sur les monétières.
Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête.
Acceptez ma rengaine,
elle veut juste dire je t'aime.
Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter.
D'être avec vous ce soir,
j'ai le cœur qui pétille.
Mimi, sers-nous à boire, on a les yeux qui brillent.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Alors nous passons au Monédière, qui était cité par Trois Cafés Gourmands, au Vimeux, dont vous venez, Frédéric Lazorte. Vous nous rappelez, c'est pas en Corrèze.
C'est dans la Somme.
C'est dans la Somme. La Corrèze en cathéter. La Somme en cathéter. Je reprends les paroles de nos chanteurs.
Alors, il faut savoir que, plus généralement, la Somme qui est dans l'ancienne région de Picardie, qui est maintenant dans les Hauts-de-France, parce que ça fait partie des modifications de région qui ont été affectées par la loi NOTRe, le caractère picard était très marqué dans la Somme. D'ailleurs, pour la Picardie elle-même, il y avait un problème d'identification. Qu'est-ce que c'est que la Picardie? Une enquête qui avait été faite déjà il y a quelques années, lorsque la région Picardie existait, montrait que dans l'Oise, on se sentait pas trop picard, mais dans la Somme, on se sentait beaucoup plus picard. Pour rebondir sur la chanson qu'on a entendue là, où il y a une sorte de nostalgie du local, il faut bien quand même considérer que ce local est aussi attaché au fait de ne pas quitter ces territoires. Ce qui se ressent beaucoup plus dans des territoires, dans certaines communes de la Somme, et notamment dans le Vimeux, où on a l'impression qu'il y a des générations et des générations, et que celui qui vient, parce qu'il y a on observe depuis quelques années une progression démographique dans le Vimeux, eh bien, est étranger. Il n'a pas tout à fait les mêmes mentalités. Il n'est pas regardé de la même façon. Ça fait aussi partie de l'ambivalence. Il ne faut pas confondre, malgré tout, les libertés locales, la démocratie locale et la nostalgie du local. C'est autre chose.
Alors, les libertés locales, il y a eu des possibilités d'expérimentation qui ont été ouvertes. Enfin, les expériences sont limitées. C'était trois. Loi de 92, référendum communal, commission consultative, des villes, petites ou grandes, ou bien mettre au centre d'un débat un sujet sur un bien commun local, ou bien affecte, comme la ville de Paris, des crédits que des commissions, des groupes de citoyens peuvent évaluer et choisir à leur façon. Mais ce qu'on vit là est tout à fait nouveau depuis quelques semaines. Le débat démocratique local autour d'un enjeu national. Et on fait évidemment appel aux maires bien souvent pour l'organiser. Je ne sais pas si vous en avez suivi dans la Somme. On va écouter les échos de l'un d'entre eux dans l'Indre-et-Loire. Il y a une volonté d'égalité, enfin, de la part de tous les participants. C'est le fruit défendu, l'égalité. Alors, quand on le recouvre, on voudrait le goûter et on ne veut pas qu'il vous échappe. Exemple, l'organisation du débat à Bléré.
Bien, bonsoir à tous. Alors effectivement, vous avez bien compris qu'on est victime d'un grand succès, mais c'est bien finalement d'avoir une participation aussi importante. Alors on avait prévu de travailler en sous-groupe. Vous avez bien vu que ça tombe à l'eau, parce qu'on ne peut pas bouger. Alors on va s'organiser autrement. Ce que je vous propose peut-être, c'est que ceux qui s'expriment essaient de s'exprimer au départ en une ou deux minutes, hein, que personne ne prenne la parole trop longtemps. Allez, on fait comme ça.
Oui, bonsoir. J'habite Amboise, donc je vois qu'il y a beaucoup de monde, je suppose. Le petit souci, c'est que moi, sur Amboise, j'ai su par ma petite voisine qui écoute France Bleu Touraine qu'il y avait ce débat ce soir. Donc c'est dommage que sur Amboise, on n'ait pas eu d'info, on est allé à la mairie de Saint-Véry. Donc voilà. Tant mieux, il y a beaucoup de monde et je suis ravi d'être là ce soir. Je voulais intervenir donc justement sur l'organisation du débat parce que moi je suis, je pense qu'on n'a pas à se fixer ce qui a été proposé par M. Macron sur le débat national. C'est nous qui avons des choses à dire, c'est nous qui devons amener les sujets sur lesquels on doit discuter, en tout cas les participants ici à la réunion. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Ça serait bien d'ouvrir la fenêtre pour les gens qui sont dehors.
Merci. Ah. Alors, bonne idée, effectivement, ça rentre de partout. Est-ce qu'éventuellement on peut ouvrir un peu les fenêtres ici? Quand je vous dis qu'on est victime du succès, c'est...
La question principale, elle est là. C'est savoir où va l'argent. Moi, je suis de Cigogné, donc je suis du coin, je suis pas de Langers, partout, etc. Je suis du coin. Donc par rapport à ça, l'argent, moi, ça fait depuis des années que je me renseigne de où passe l'argent. L'Assemblée nationale a acheté un hôtel particulier à 63 millions d'euros et dépense 40 millions d'euros dans le travaux pour l'aménager, pour ses bons soins. Les sénateurs ont dépensé 800 000 euros de frais de bouche en plus de ce qu'ils ont habituellement. Ça, c'est nous qui payons. C'est tout ce genre de choses qu'il faut dénoncer. Là, l'argent, on l'a. Vous avez, monsieur le maire qui était là, je lui en ai parlé, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des agents territoriaux. Cet organisme-là a 328 millions d'euros de côté sur ses comptes et vient de s'acheter un hôtel particulier à 67 millions d'euros à Paris pour son siège social. Si admettons tout ça, on arrête de dépenser comme des conneries, on regroupe l'argent, et ben l'argent, donc ça veut dire que l'argent on l'a, et on l'utilise mal, et ainsi de suite.
C'est Figaro Vox qui a eu l'excellente idée d'enregistrer un débat dans sa totalité. Si les radios de proximité de Radio France faisaient la même chose dans chacune des régions où elles opèrent, on aurait une somme extraordinaire pour l'historien et pour le citoyen. Frédéric Lazorte.
Oui, bien sûr, mais ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit bien que les citoyens sentent l'éloignement du pouvoir et accusent ou soupçonnent tous ces lieux de pouvoir de dépenses somptuaires qui leur prendraient leur argent. D'ailleurs, il faut voir un petit peu, moi ce qui m'amuse, c'est un petit peu le renversement, car quand en 1884... la loi Ferry instaure les libertés communales, l'un des premiers objets, c'est de créer des mairies, une maison commune, qui ne soit pas juste la maison du notable. Et maintenant, ces maisons communes, ces espaces qui sont les espaces des élus ou des établissements publics, semblent échapper aux citoyens. C'est la République sans ses palais, en tout cas.
Et les écoles et les mairies étaient des palais.
Absolument. C'est la République qui s'éloigne d'eux, et c'est la République dont le coût de fonctionnement leur semble cher. C'est la première expression, Tocqueville aurait dit grossière, de la démocratie locale, parce que celle qui fait peur quelquefois au pouvoir central, parce que au niveau local, on voit les choses de manière assez simple quelquefois, voire simpliste. Et c'est toute une rééducation à la démocratie et une relégitimation des institutions démocratiques qui va passer par là.
Mais c'est une repolitisation aussi qui commence.
Une repolitisation, mais il faudra que les élus entendent mille fois les mêmes choses. Et d'ailleurs, au demeurant, les maires sont souvent, restent toujours au contact des récriminations des citoyens.
Ils sont les premiers à porter d'engueulade. Merci à vous, Frédéric Lazorte. Frédéric Martin, grâce à vous, a découvert le Vimeux, et puis aussi Grégory Vallon et Valérie Aestaraï. La technique et la réalisation aujourd'hui.